Bonjour, bonsoir, bienvenue à Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de CKIA. Je suis Guillaume en compagnie de...
Jenny.
Et Farouko.
Alors, cette semaine, on a encore une fois une émission assez chargée avec plusieurs choses qui nous ont marquées dans l'actualité. Entre autres, on va parler par rapport aux augmentations, en fait, à la régie des loyers qui a sorti ses suggestions, en fait, son avis par rapport au pourcentage d'augmentation. Donc, on va en parler. On a aussi des autres choses par rapport aux travailleuses de la santé.
On va parler des manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui, mercredi, dans l'habitude du musical de la part travail de santé et aussi d'un sondage qui est sorti cette semaine dans Le Devoir qui révèle l'appui des Canadiens à la peine de mort.
Sinon, ben, on va aussi parler un petit peu d'Haïti, un petit peu par rapport à McGill et ses augmentations de frais effarantes. Puis, on va vous plugger aussi notre tournée qui s'en vient la semaine prochaine.
Ça s'en vient.
Ça s'en vient, oui, très rapidement. Alors, avec un camarade argentin, donc sous le thème Usine sans patron. Mais on y reviendra plus tard. Là, on va aller en musique.
Oui, avec un tout nouveau groupe de Montréal qui compte trois spectacles à leur actif. C'est presque une exclusivité, mesdames et messieurs. On a Burned Ships avec Five Hoes, One Hobo sur les ondes de Sequoia. Voix de fait.
De retour à Voix de fait, donc on va y aller tout de suite avec les actualités. Le 21 janvier dernier, soit jeudi de la semaine qui nous précède notre émission de cette semaine, donc c'est la Régie du logement qui a sorti son avis par rapport aux hausses de loyers pour cette année. On a sorti les suggestions, parce que ce ne sont que des suggestions de hausse par rapport à, dépendant que les caractéristiques de votre loyer. Donc, puis par rapport à ça, ben le FRAPRU, le Fonds de réaménagement Front populaire d'action populaire pour le réaménagement urbain, excusez-moi.
Wow. Donc,
ça a été difficile. Recommande aux locataires de refuser toutes les hausses de loyer qui leur apparaîtraient abusives en fonction de ces indices-là. Mais
par exemple, le propriétaire vous dit l'an prochain je vais faire des travaux, ben tu dis t'augmenteras l'an prochain.
Ben, exactement. Puis il n'y a pas le droit de vous refiler en un an non plus la hausse du loyer, en hausse de loyer, tout le coût des travaux. En fait, c'est supposé être calculé sur la période d'un emprunt. Donc, ça fait pas des pourcentages de 10% d'augmentation par année, mois, en fait. C'est ça. Donc, c'est en fait ce contre quoi les groupes populaires qui font partie du FRAPRU ressortent encore une fois cette année pour, dans le fond, inviter à la prudence, inviter à la vigilance et à aussi ne pas se gêner pour faire des négociations avec vos propriétaires. Quand viendra le moment où ils vont vous envoyer les avis de renouvellement, ce qui est en fait la période dans laquelle on est actuellement là, pour les bails qui se terminent au 1er juillet. Donc, les avis sont supposés être envoyés entre le 1er janvier et le 31 mars. Si jamais vous ne recevez pas d'avis après le 31 mars, puis que vous-même n'en envoyez pas, parce que les locataires aussi ont comme responsabilité, si on décide de quitter, donc de donner, de dire avant le 31 mars, bon, ben je quitte le loyer. Mais dans le fond, après le 31 mars, si ni l'autre des deux parties n'a pas manifesté une quelconque envie de négocier, ben c'est renouvelé avec le même coût, le même loyer. Sauf que bon, c'est ça, par rapport aux hausses, ben c'est sûr que en fait, c'est même des baisses pour certains types de loyers. On parle là, dans le fond, les deux types, c'est les logements qui sont chauffés par les locataires puis les logements qui sont chauffés par les propriétaires. Donc, si votre logement est chauffé, ben, c'est vous qui payez la facture de chauffage. On parle de pourcentage de 0,8% qui sont suggérés. Puis, pour les logements qui sont chauffés par les propriétaires, ben on a à l'électricité, on parle d'une hausse de 1%. Au gaz, on parle d'une diminution de 0,5%. Et au mazout, ça va même jusqu'à une diminution de 7,9% à cause de la diminution des prix dans le fond du mazout.
Ton loyer est supposé de diminuer de 7,9%.
Oui, oui. Ben c'est ce que la régie du logement, en fait, propose, en fait, d'après les calculs sur les coûts
ces chiffres-là,
des factures du chauffage.
Ils sont sortis quand, les chiffres?
Ça, c'est sorti le 21 janvier.
La CourPic n'est pas encore sortie là-dessus.
Ben, moi, j'ai rien vu là-dessus, en tout cas, en faisant mes petites recherches, puis... sûrement qu'ils vont essayer de le taire le plus possible pour pas que les gens s'en rendent compte, mais surveillez bien vos affaires. Si votre chauffage est payé par le propriétaire, ben ça peut être intéressant dans le fond de vérifier à quoi est-ce que je suis chauffé. Donc la vigilance est de mise. Et par rapport à ça, ben c'est sûr que là le FRAPRU amène ses revendications aussi par rapport au fait que les loyers ont augmenté beaucoup dans les dernières années. On parle d'une hausse de 29% depuis 2000. En 2000 et 2009, 29%. On s'entend que les locataires ont vraiment pas les moyens de payer davantage. C'est en fait ce que le FRAPRU affirme et que lors du recensement de 2006, on parle de 203 085 ménages locataires qui consacraient déjà plus que la moitié de leurs revenus au loyer à l'échelle du Québec. Puis ici, dans la ville de Québec, on parle de 17 340. Puis la situation, ben c'est sûr qu'elle s'est détériorée. Bon, on parle de la crise économique, ben c'est vrai que ça l'a touché un peu beaucoup les locataires parce que les causes qui sont devant la régie pour non-paiement de loyer ont augmenté d'environ 2000, d'un peu plus de 2000 pour l'année 2008-2009 par rapport à 2006-2007. On parle d'une hausse de 5%, donc. Puis bon, ben c'est sûr que parallèlement à ça, ben il y a la fréquentation des banques alimentaires qui a augmenté de 8%, puis au Québec, puis 17% à Montréal. Donc en soi, ben c'est sûr que le problème du logement est toujours bien présent. Donc si vous avez plus de questions ou que vous voulez vous informer par rapport à comment je peux faire pour me battre contre mon propriétaire ou bien négocier ou m'organiser pour avoir les bonnes informations au bon moment pour aller négocier avec mon propriétaire, ben vous pouvez toujours vous informer auprès de vos comités
On s'entend qu'on incite personne à se battre physiquement.
Non. Non, non, c'était au sens figuré, au sens de comme on s'assoit et on discute et comme s'il faut, ben comme on met les points sur les i, mais bon, non pas les points sur la gueule, là, mais. Donc, ben c'est ça, les groupes populaires qui s'occupent de logement vont se faire un plaisir de vous donner toutes les informations et de vous accompagner à travers le processus de négociation. Entre autres, là, il y a le comité populaire Saint-Jean-Baptiste qui annonce qu'ils vont donner des ateliers, ben en fait, quatre fois le même atelier sur les hausses de loyer. Ben par rapport à comment calculer la hausse de loyer, c'est quoi les recours des locataires, comment que ça se passe à la régie du logement, et etc. Il y a une première séance qui est le jeudi le 4 février à 10h et à 19h. Puis il va y en avoir d'autres mardi le 9 février aussi à 10h et 19h. Donc c'est au 780 rue Sainte-Claire ou pour information. Vous pouvez aller composer le 418-522-0454 ou consulter le site internet au www.compop.net. C'est ça pour le dossier.
Il y a juste un dernier truc aussi. Quand on reçoit le papier du propriétaire qui demande si tu renouvelles ou pas, tu as une certaine période de temps pour répondre à ça, non? T'es limité, je pense que t'es 30 jours ou une affaire comme ça, mais vérifiez comme il faut parce que si vous répondez pas dans le délai, ben c'est considéré comme une non-réponse. Oui. Quand on répond pas, ben là, c'est les termes. Ça veut dire que vous acceptez les termes du renouvellement du bail.
C'est ça. Ben en fait, il y a comme trois cas de figure là que la régie met de l'avant par rapport à ça. Soit on accepte l'augmentation, donc c'est ça, aucune réponse n'est nécessaire. Donc c'est comme de facto le bail va se renouveler avec la hausse que le propriétaire vous a envoyée. Donc refuser l'augmentation, ça c'est ça, on a un mois suivant la réception. Puis ça, ben normalement ça doit être envoyé. C'est pour ça que c'est envoyé par courrier recommandé pour avoir et par le propriétaire, c'est envoyé par courrier recommandé. Et la réponse doit aussi avoir l'étampe de la poste pour bien le prouver. Si vous allez devant la régie du logement, en tout cas, ça risque d'être
nécessaire.
C'est
mieux pour vous, mais comptez pas là-dessus pour la lettre du propriétaire. Trois quarts du temps, il vient déposer ça dans votre boîte aux lettres.
Ouais.
Puis la régie, comme avait dit Nicolas, est très clémente envers les propriétaires à ce niveau-là en disant « ben là, il te l'a donné ». Lui, il a moins souvent besoin de l'étampe de la poste que toi en tant que locataire qui renvoie le truc. Là.
Donc, d'autres raisons alerte. De plus pour être alerte et vigilant, c'est ça, pour pas se faire avoir. Puis, c'est sûr que sinon, la dernière option, c'est si vous quittez, donnez l'information à temps, parce que sinon, effectivement, vous, à moins d'avoir un propriétaire qui est conciliant, vous pouvez aussi vous ramasser avec un bail qui se renouvelle, puis que le propriétaire vous dit moi je m'en lave les mains. Fait que ça peut être compliqué de sous-louer et tout. Là. Fait que
Mais avec la situation actuelle du logement, laissez-moi vous dire que si ça fait plusieurs années que vous êtes dans votre appartement, le propriétaire va être heureux de vous voir quitter. Parce que quand ça fait 4-5 ans puis que le loyer est encore là. Quasiment le prix de là 4-5 ans, le propriétaire, il se fait manger à peu près 100$ par mois sur votre dos. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il calcule ça. Au lieu de l'avoir à 660, ton loyer, il est à 560, là. Bien content que tu t'en ailles.
Puis, c'est ça, mais aussi, c'est pour ça que c'est important dans les cas aussi, puisque ça fait longtemps que vous êtes dans votre logement, de donner l'information aussi à la personne qui
laissez
rentre après
bail.
Vous, laisser votre bail, laisser les données pour que les personnes qui vous suivent puissent avoir la bonne base pour négocier eux autres aussi leur loyer. Et donc, ne pas se faire avoir, parce que des fois, on voit des loyers qui doublent.
Oui, parce que c'est sûr, c'est vraiment dur sur le moral, puis c'est vraiment plate d'aménager, puis commencer la chicane en aménageant. Mm-hmm. Sauf que pensez-y, des fois, si on parle de 100-150$ d'augmentation, les propriétaires, ils disent qu'ils font du rattrapage. Sauf qu'ils ne rattrapent pas sur la rénovation, ils ne rattrapent pas sur l'état du loyer, ils prennent la même affaire. Puis il faut 150$ par mois de plus. Il n'y a pas aucune explication logique autre qu'on veut faire de l'argent sur votre dos.
Puis on répare juste à la pièce quand c'est pété.
Ah, des fois, ça peut être très long.
Ça peut être très long.
Il y a un plafond défoncé chez nous, ça fait longtemps.
Je pense qu'on en a toutes des histoires comme ça.
Oui, on va enchaîner en musique. On ira après ça avec notre bloc Nouvelle régionale. Alors, on va enchaîner avec La Gâchette, qui nous chante une belle chanson sur les médias.
C'était une toune sur les médias, mais c'était pas une toune sur nous, là. C'était les médias.
Les médias de masse.
Les médias de masse, c'est ça. Donc, vous êtes de retour à Voix de fait sur votre radio communautaire, c'est CKIA 88.3. Donc, c'était cette semaine, soit lundi le 25, qui était supposé commencer la démolition de la façade de l'église Saint-Vincent-de-Paul sur la côte d'Abraham. On parlait là, que ça allait prendre seulement un gros max une semaine à jeter par terre. Puis finalement, ça a été retardé, mais ce qui est quand même retardé pour des raisons de sécurité. Là, on n'avait pas planifié assez de place, dans le fond, sur la rue pour protéger les gens des débris qui pourraient tomber de la façade. Ce qu'on dit, c'est que là, ça faudrait fermer les deux rues complètement pendant comme tout le temps de la. Que les travailleurs sont sur le chantier, ce que la Ville de Québec refuse. Mais par ailleurs, on est parti sur la démolition. C'est comme ça y est, c'est lancé. Enlevons-la, cette façade maudite dont on parle, puis qu'on a d'en face depuis tant d'années. Mais c'est quand même curieux parce qu'il n'y a quand même pas de projet de remplacement concret sur la table, parce que tout ce qu'on a vu à date, c'est des dessins d'architectes. En fait, là, d'après ce que le Soleil dit, c'est le projet du promoteur, là, l'hôtel de 350 chambres assorti d'une quarantaine d'unités d'habitation, ça reste encore à être examiné par la commission d'urbanisme de la ville. Même si le maire Labeaume le trouve bien beau, l'hôtel, puis aimerait ça que ça lève le plus vite possible, comme ça fait pas encore l'objet d'évaluation concrète et comme raisonnable pour un projet de l'ampleur que ça a qui est prévu, bref, on démolit, mais on n'a rien.
Ouais, mais la logique, c'est qu'on veut s'enlever une épine du pied, parce que tant que la façade reste là, l'option est ce qu'elle. Les médias appellent le façadisme, là, genre garder cette affaire-là, elle reste vivante.
Ouais.
Tandis que, puis ça avance pas. Puis on s'entend que le maire Labeaume a peur de perdre son petit jarreau. Parce que, lui, il a beau avoir laissé promettre des enneries par ses échevins. Il appelle plus ça des échevins, des élus municipaux. En tout cas, il a beau avoir laissé dire n'importe quelle connerie à ses élus municipaux. Lui, il est resté bien tranquille en arrière, puis aussitôt élu. Non, non, je l'aime, Jérôme.
Effectivement, c'est le mode opératoire qui est mis de l'avant. Mais en tout cas, c'est ça. On s'en débarrasse au plus vite là, avec un bel artiste qui nous dit genre, ah, moi, je vais vous reconstruire quelque chose de beau avec ça, avec quelques pierres que j'ai ramassées. Puis
cet artiste étant un mythomane incroyable, gars-là, il venait choper des pierres sur l'église en Basseville qui a été démolie pour faire une coop qui est en train de se bâtir. Et sur sa carte qu'il donnait au monde, quand le monde disait c'était qui toi pis tout, c'était marqué architecte.
Ok.
Mais c'est parce qu'entre artiste qui fait des statues avec des débris d'église, puis architecte, là, il y a beaucoup d'années d'études, puis il y a tout un ordre professionnel. Mais ça a l'air qu'il fait ça souvent. Puis là, comme à chaque fois qu'il sort d'un média actuellement, c'est artiste multidisciplinaire.
Ok. Mais c'est beau, artiste multidisciplinaire.
Ben oui, ça inclut l'architecture à cette heure.
Je pense qu'il parlait de ramasser des graffitis aussi. Là, je sais pas trop si c'est des graffitis comme en arrière ou en tout cas.
Régis n'aimera pas ça.
On sait jamais. Régis, des fois, il est étonnant dans ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Tu sais. Fait que, en tout cas. Bref, on rappelle qu'il y a quand même une lutte qui est menée dans le quartier Saint-Jean-Baptiste pour avoir aussi autre chose qu'un gros jarreau, soit des logements, soit quelque chose qui va être vraiment comme s'intégrer dans le quartier puis faire en sorte que justement la demande en habitation et non pas seulement en touriste soit comblée.
Mais qu'on continue à renverser la vapeur parce que ce coin-là, c'est des milliers de logements. Peut-être pas des milliers et des milliers, mais au moins un bon millier de logements qui a été démoli pour que, voilà des années, mais pour qu'on montre jusqu'au Parlement sur l'équivalent d'une autoroute. Avant, c'était tout bâti, là, c'était Saint-Jean-Baptiste continuait. Mais là, tout ce qu'on sait, c'est que on est encore dans cette logique-là. Tu sais, c'est pas revenu. Il y a eu la victoire de l'escalier, que ça a pris des décennies, mais que finalement, ils bâtissent. Mais à part ça... c'est tout le temps la même affaire. Là. Tout ce qui est démoli est systématiquement remplacé par quelque chose qui va être utilisé par les banlieusards, c'est-à-dire des trucs récréotouristiques. On va faire le Big Air et compagnie, ou des trucs utilisés par des touristes. Mais on est comme dans un no man's land à partir de cette côte-là. Jusque dans le Vieux-Québec, c'est quasiment un no man's land. Là. Tu te promènes dans ce coin-là après 11h le soir, puis t'es suspect.
Ça fait penser à Ottawa, en fait.
Oui!
Parce que le centre-ville d'Ottawa est exactement comme ça. C'est tellement comme juste une place de fonctionnaires ou de gens qui travaillent dans des banques, ou etc., là, qui est comme... C'est mort après. Ouais. Les restaurants, ils sont tous fermés à 10h, puis les bars sont très rares.
Ferme à 10h.
Ouais, quasiment aussi. Ils ferment à 1h, là, mais non, c'est ça. Mais effectivement, si on enlève les gens qui restent là, ben on enlève aussi la vie qui vient avec. Puis non, c'est loin d'être quelque chose qui est positif pour un développement sain d'une ville.
C'est loin de du développement durable et de la ville verte de la Beaume, en tout cas.
En effet. sur ce, on va passer un peu plus régional
dans le Nord. C'est des travailleurs de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont manifesté aujourd'hui, mercredi le 27, devant les centres hospitaliers de la province, devant les centres hospitaliers de la région, en fait. Il y a eu des manifestations un peu comme ça à travers la province. En Abitibi, c'est des syndiqués de la Fédération de la santé et services sociaux, dont appuyé à CSN, qui demandent de meilleures conditions de travail. Trop à Val d'Or, ils ont distribué des centaines de tracts afin de sensibiliser la population. Selon une secrétaire médicale qui travaille au Centre de la santé de la Vallée de l'Or, qui a été citée par Radio-Canada, elle a dit qu'on veut avoir des postes à temps complet, des postes permanents. Il y a beaucoup de femmes monoparentales qui peuvent travailler 4-5 jours pour 2 semaines. D'ici pas assez, on va avoir plus de travail pour ces gens-là. Le syndicat demande aussi au gouvernement des protections contre la privatisation des services, comme l'utilisation de l'agence de personnel. Demande aussi des mesures pour s'attaquer aux pénuries personnelles pour meilleure conciliation de travail, famille et études. Puis ce syndicat-là, ça représente près de 2000 personnes qui travaillent dans le réseau de la santé de Abitibi. Puis c'est surtout des femmes, puis ils travaillent dans les centres hospitaliers, les centres de soins de longue durée, les centres de jeunesse, les centres de réadaptation.
Ça, c'est une réalité qui est... Bon, la manifestation a lieu en Abitibi, mais c'est une réalité qui est commune à tous les centres hospitaliers, là, tous les, les milieux de la santé. C'est toujours comme ça. Il y a des postes à temps partiel à pocheter, sauf que ça prend à peu près... Puis il y a des postes à temps plein aussi, mais ça prend à peu près 10 ans avant de réussir à en avoir un. Puis
ça veut pas dire que tu es permanent. Des fois, ils te donnent du temps plein, mais... de manière temporaire, dans le sens où tu vas l'avoir pour l'été, ton temps plein.
C'est ça, un remplacement que ben souvent, tu sais même pas quand est-ce qu'il va finir, tu sais à peine quand est-ce qu'il commence, tu sais vraiment à la dernière minute. Puis là, à un moment donné, ben hop, tiens, il est fini. Ouais, là, c'est comme la précarité qui recommence, puis là, t'es obligé de toujours être à côté de ton téléphone, puis attendre les appels, puis c'est loin d'être une situation qui est comme facile quand tu veux, premièrement, attirer des gens et les garder pour qu'ils travaillent dans le milieu.
Ça prend plus qu'un lip dub.
Oui, effectivement. Puis... c'est ça, mais tu sais, là, on parle de at large, là, de comme tous les gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Mais en fait, il y a aussi les infirmières là, qui ont. En fait, c'est parce que les infirmières sont un cas particulier à travers le milieu de la santé parce que, étant régies par un autre professionnel, elles sont obligées de rester en temps supplémentaire. Puis ça, ça devient quand même extrêmement problématique, là, parce que, premièrement, on n'offre pas des postes à temps complet à tout le monde, alors que, les besoins sont là.
Eh oui.
Tu sais, c'est en fait ce qui est demandé, là, par rapport à la négociation actuelle de la nouvelle convention collective. Dans le fond, on demande d'offrir des temps pleins à tout le monde, probablement pas tout le monde qui en prendrait. Là, on parle de ce que la présidente Régine Laurent de la FIC dit, c'est qu'il y aurait probablement 90% là, que la FIC vise là, qui pourrait avoir des postes à temps plein. Puis on réglerait beaucoup de problèmes par rapport à ça, là, par rapport au temps supplémentaire obligé, par rapport à au fait que les gens vont aller vers les agences privées.
Oui, mais les agences infirmières privées... Justement, ouais. Ça commence à sortir dans les médias. Enfin, ils commencent à l'admettre. Ça coûte plus cher.
Ça coûte extrêmement plus cher.
Surprise! Avant ça, le discours, c'était « Ah, le privé, c'est le bien. Le privé, c'est plus efficace. Oui. C'est plus, ça se module mieux. Puis en plus, les horaires sont plus intéressants. Puis c'est bien pour le... Tu sais, ça menace pas le public. Non, ça y fait faire faillite.
Non, c'est ça. C'est parce que, tu sais, OK, j'imagine qu'au début, tu sais, un certain pourcentage de très réduit de personnel privé que tu viens pour boucher un trou à quelque part, tu sais, OK, mais quand tu arrives au recours systématique aux gens des agences privées, mais là, premièrement, tu t'engages dans des contrats à long terme avec le boss de l'agence, puis que lui, il ramasse un surplus par rapport au salaire des infirmières qui viennent travailler. Puis ces infirmières-là gagnent plus que les infirmières du réseau public. Ils n'ont pas d'avantages sociaux de payer, mais ça reste que ça coûte effectivement plus cher. Il y a quelqu'un qui fait un profit sur ce salaire-là. Puis c'est pas vrai que ces personnes-là vont faire tous les corps de travail, vont se limiter à travailler de jour, quand ça fait leur affaire, pas la fin de semaine. Puis laissant les miettes, soit le travail de nuit, le travail de soir.
Bref, quand tu viens
du travail public, du secteur public.
C'est vrai, quand tu regardes pourquoi les gens vont travailler dans les agences privées, puis les guerres qu'il y a dans le public aussi entre l'ordre professionnel et le syndicat souvent. Souvent, ils ont deux positions opposées.
Ouais.
Mais tu te rends compte qu'en tout cas, de mon point de vue, le problème, c'est l'ordre professionnel.
Effectivement, mais c'est parce que c'est très touché là, tu sais, de réviser ça les histoires d'ordre professionnel, parce que effectivement, si des patients n'ont pas d'infirmière pour s'occuper d'eux autres, pour leur donner des médicaments, pour assurer la continuité des soins, c'est effectivement, tu sais, ça peut être la mort qui les attend là. C'est que, tu sais, comment tu deals avec ça, mais tu sais, autrement qu'en obligeant les gens à rester, tu sais, peut-être que de réviser profondément l'organisation du travail, tu sais.
Justement, si on avait plus de temps plein, s'il y avait plus de monde qui travaillerait, ça ferait plus de monde qui travaillerait moins. Tu sais, je veux dire, tu joues avec tes horaires, puis t'es pas obligé d'avoir 20 infirmières qui font 80 heures semaine, puis 15 autres qui ont fait 5 jours en 2 semaines.
C'est ça.
C'est ça, pas rapport, mais c'est ce qu'il y a présentement.
Oui, c'est une réalité présentement. Puis là, ben, on parle des infirmières qui vont partir à la retraite, que là, faudrait donc bien les retenir, mais comment tu veux retenir une personne qui est rendue à 55 ans, 60 ans, qui est comme qui est fatiguée, de, comme en disant, ben, tu vas être obligé de faire du temps supplémentaire tout le temps?
Ben non, moi, je fais ça chaque réel.
Ben, c'est Ok, ouais. Ben voilà, c'est, en tout cas, c'est la négociation continue là. Actuellement, c'est dans le fond ce qui est sorti vendredi dernier, c'est que c'était un rejet en bloc de toutes les offres patronales là, pour par rapport aux infirmières. Puis là, il y a le front commun, mais par rapport à toutes les autres du secteur public en général, mais ça, on va en reparler. J'imagine bientôt qu'on va en avoir d'autres nouvelles.
Oui, les négociations s'en viennent.
Oui, c'est en cours. Sinon, ben bon, en restant dans le monde des relations de travail, le merveilleux monde des relations de travail, ben cette semaine, il y a le triste anniversaire de 1 an de lockout au Journal de Montréal qui...
c'est le 24, hein?
Ouais, qui est, c'est, 24, oui, oui, c'était ouais, 24, c'est ça, ils en ont parlé, dans le fond, lundi.
C'était un moment propice pour pick-upper de sortir son billet anti-syndicaliste.
Ouais, c'est ça. Là, selon pick-upper, le syndicalisme a eu de bons effets dans le dernier siècle, là, mais bon, c'est assez, puis faudrait passer à autre chose, puis dans le monde qui a tellement changé, faudrait qu'on...
C'est... Exactement le discours des masculins. Le féminisme a eu un bon... C'était correct avant, mais maintenant, on n'en veut plus.
Ben oui.
Mais la droite, c'est... Ah, le syndicalisme, c'était correct avant, mais là, on n'en veut plus.
C'est ça. C'est comme l'État-providence. C'était correct avant, mais là, on était carré.
Ils nous ont aidé à bâtir nos empires financiers. Maintenant, on n'en veut plus. Ils sont dans nos jambes.
Ouais. Nos empires sont assez grands pour se débrouiller tout seul. Et comme,
On veut slacker pareil.
C'est ça. Mais non, c'est ça, c'est c'est juste beaucoup trop, tu sais, c'est beaucoup trop aberrant. Et pour une personne qui, dans le fond, comme ne veut même pas s'asseoir à la table, genre, puis négocier avec les syndiqués, comme depuis... En tout cas, je sais même pas si on négocie à aucun moment dans l'année. Là.
Ils ont une couple de fois, les syndicats, si je me rappelle bien, une couple de fois, c'est frappé le nez sur une porte close, mm-hmm. puis là, il se pose à avoir un médiateur, mais le médiateur ne peut rien faire tant que la partie patronale... En fait, tant que, avant même de rentrer en négociation, les syndicats crachent sur plusieurs de leurs acquis.
Ouais.
Avant même d'accepter d'aller à la table de négociation, il faut que le syndicat abdique.
Ouais.
Puis, je sais pas si vous avez fait le parallèle, mais le RTC, le syndicat des employés de soutien de RTC, mm-hmm. s'est fait accuser et déclarer coupable par la commission de relations de travail de négociation de mauvaise foi. Parce que il y avait des prérequis avant d'aller en négociation.
OK.
Le prérequis étant le respect des conventions.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, ça a l'air que les prérequis peuvent d'un bord, pas de l'autre. Puis même, en tout cas, c'est commission de relation de travail, là, c'est patron pas
ouais,
mal.
C'est légèrement biaisé. Mais ouais, c'est ça. Fait que. Mais en plus, c'est que les syndiqués se disent toujours ouverts à comme en faire des concessions. T'sais. En plus, ils se disent depuis le début. De par rapport à faire des concessions, un peu comme le Journal de Québec, ça a eu lieu. Puis ce que j'entendais par un journaliste cette semaine, je pense que c'était à l'émission de Christiane Charrette, il disait que dans le fond, au Journal de Québec, ça allait pas du tout mieux, que dans le fond, la convention collective n'était même pas respectée là, malgré toutes les concessions qui ont été faites. Ben la nouvelle convention est même pas respectée. On voit apparaître beaucoup de griefs alors qu'avant ben c'était des relations harmonieuses.
Ben ce que les employés du Journal de Québec disaient, c'est que ça allait bien. Il y avait pas de trouble,
ils s'entendaient avec avec les patrons, puis
c'était loin d'être un syndicat de combat là.
Non, effectivement, c'est
au Journal de Montréal, c'est loin d'être un syndicat syndicat de combat.
C'est ça. Mais pourtant, justement, mais c'est ça. C'est là que ça démontre jusqu'à quel point ils peuvent être fermés, Pelado et Québécois, parce que c'est comme. Il y a des syndicats devant lui qui sont presque des syndicats de boutique, puis qu'ils sont en train de se battre à comme, faire une grosse concurrence, premièrement, parce qu'effectivement, le site ruefrontenac.com a beaucoup plus de contenu et beaucoup mieux. beaucoup mieux fourni en information que pouvait l'être le Journal de Montréal et qu'elle l'est actuellement, mais en tout cas.
Puis ils utilisent les mêmes techniques à Montréal qu'à Québec. Ils ont créé une agence qui sous-traite. Ils continuent, ils font affaire avec des imprimeurs. En tout cas, c'est exactement la même affaire.
C'est un plan monté d'avance.
Puis tout le monde l'avait vu venir. Je veux dire, un peu plus les éditorialistes du Journal de Québec, quand ils rentraient de la grève, ils disaient « Bon... » de leur lockout, c'est bon, c'est à votre tour, Montréal.
Oui, c'est ça.
Ils avaient engagé une quantité folle de cadres tout d'un coup, puis ils commençaient à déjà monter l'agence de presse. Et bon, on s'en va dehors, nous autres.
C'est louche.
Oh oui.
Bon, on va en musique?
Oui, on va y aller avec un artiste local. On va y aller avec Webster qui nous chante Québec History X au 88.3 CKIA.
Ramener dans le temps pour quelques instants. Vous dévoiler des faits qu'on n'apprend pas forcément. Genre toutes scènes de notre histoire, celles qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les noirs, celles qu'il faut remettre à jour. Par où commencer, pour vous dire comment c'est. D'abord faut nuancer, l'histoire est romancée. Manipuler les décrets devant les vainqueurs. Nous sommes partis dissimuler les hypocrites d'Apodia. Back in the day, sur de 1604, Champlain débarque avec à son bord au black. Mathieu d'Acosta dit l'interprète. Il parle les Micmac, français, hollandais. En 1629 arrive Olivier le Jeune, premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec. Au moins 10 000 esclaves au Canada jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833. Lui, c'est fou, à force de pureté en masse, j'ai couvert que Lionel Groux prenait la pureté des races. C'est la même pour Garneau, FX Garneau, Québec History X, ils ont passé du tableau. Mais pourtant, il y avait des hommes d'affaires noires, on était dans les régiments. D'autres étaient croire des bois, mais aussi des aubergistes. Et ils veulent nous faire croire que les noirs sont d'ici depuis les années 70. 1779, point du sable Jean-Baptiste. Métis antillaire, fondé un poste de traite en Illinois. Nowadays, Olapé, Chicago, Black francophone, à fond des Chicago. Jackie Robinson, Olivier Jones, Oscar Peterson, la liste est longue, mais pas tant que ça. Trop d'héros oubliés qui ont contribué à notre passé, mais un peu veulent le souligner.
I'm not controversial, I'm just speaking the facts. I think I speak with your weak mind lack. I'm not controversial, I'm just speaking the facts.
Au 19e siècle, c'est pas du tout fini. Ils ont envoyé les Chinois faire les chemins de fer de tout le pays. Les donateurs vivants, ils envoyaient creuser la roche avec la nitroglycérine, ça sautait à leur approche. Le pâté chinois, ça vient de là. Bœuf, maïs et patates, tout ce qu'on trouve dans le West Side. À toi puis moi, ça a rien d'oriental. C'est une mixture qu'on leur donnait pour les nourrir en tas. Maintenant les Indians, oh, les Indians, man. Ils l'ont eu bad, les Indians. Genocide à grande échelle, à trop grande échelle. La mémoire des Amériques est à jamais entachée. Premières armes bactériologiques, on leur donnait des couvertures, un bibi de variole. Tu vois la suite, un choc microbiologique et viol culturel. Être vu un étranger sur sa propre parcelle de terre ancestrale, c'est l'ère industrielle. Fait qu'encore 21e siècle, l'âme des ancêtres râle. Parle de viol, d'école et d'alcool dans les fioles. Le haut taux de suicide démontre fucking ras-le-bol. Dans les réserves, je comprends qu'il y en a qui allaient s'attaquer au gouvernement, comme dans le temps qu'il allait s'attaquer.
I'm not controversial, I'm just speaking the facts. I think I speak with your weak mind lack. I'm not controversial, I'm just speaking the facts. Wake you up out of your brainwashed state.
De retour à Voix de fait. Donc, Jeannie, de nouvelles par rapport à la peine de mort.
Ça, c'est un nouveau sondage qui est effectué par la maison Angus Reid qui a sorti une réalité un peu surprenante à la société canadienne. C'est un sondage qui a été mené en août 2009 auprès de 1000 répondants au Canada. Autant ben, au Canada, aux États-Unis puis en Grande-Bretagne. Puis là-dessus, on découvre que près de 62% des Canadiens diraient oui à la peine de mort. Puis, fait que je trouve encore surprenant, 69% des Québécois.
Mais ça, dans l'article aussi, il parle que c'est un phénomène cyclique, je crois.
Oui. Mais tu sais, dans le fond, ce qu'il parle, c'est que quand un gouvernement essaye de plus déposer des peines minimales pour différents crimes, ben ça augmente la crainte chez la population aussi, hein, surtout.
Mais aussi la formulation de la question, le temps, l'air du temps. Là, tu chopes deux, trois pédophiles, t'es mis aux médias, inquiète-toi pas que la peine de mort, elle pogne des nouveaux scores.
Ça, ils disent que les citoyens canadiens sont maintenant de plus en plus nombreux à croire qu'il faut imposer des peines minimales aux délinquants et privilégier la prison plutôt que la réhabilitation. Ben c'est ça, en fait, c'est ça, c'est 62% des Canadiens et 62% des Québécois qui voudraient rétablir la peine de mort pour punir les meurtriers. Puis il y a près de 65% des Canadiens qui croient que les peines minimales envoient un signal dissuasif aux criminels potentiels. Parce que ils disent que là-dedans, c'est que tout ce qu'aux États-Unis, ce qu'ils commencent à penser, en fait, il y a même des républicains qui pensent ça, c'est que si tu donnes des peines minimales à des criminels pour des petits crimes, ben ça risque de les endurcir plus, puis dans le fond, ça sert à rien.
Donc, la prison, c'est l'école du crime, c'est reconnu partout. C'est je veux dire, il faut avoir des ailleurs puis des bouchons dans les oreilles pour pas y croire.
Effectivement, puis le cas des États-Unis, justement, démontre depuis des années et des années.
C'est un cas et cas.
Oui, effectivement. Là, je veux dire, les taux de meurtre sont comme les plus élevés qu'il y a dans le monde. Ben, bon, peut-être pas les plus élevés dans le monde, là, mais ils sont parmi les plus élevés. Puis pour autant, genre, le monde il continue à avoir des peines plus répressives et tout, mais ça fait pas aucun effet.
C'est ça. Selon sondeur Andrew Greenville, qui est responsable du sondage chez Angus Reid, lorsqu'un gouvernement dit qu'il sera sévère envers le crime, qu'il imposera des sentences minimales pour certains crimes et qu'il poursuit en général l'ordre du jour tout fuit en état de justice criminelle, cela alimente la peur. Puis aussi, il y a les peines minimales sont en général critiquées par le milieu de la guerre parce qu'ils ont tendance à multiplier les transactions de coulisses qui sont engagés pour tirer des accusations débouchant sur des peines en échange d'une reconnaissance de la culpabilité des exécutions moins sévères. Il y a le ministre de la Justice conservateur Rob Nicholson qui a décidé qu'il ne voulait pas commenter le sondage. Le gouvernement conservateur a souvent répété qu'il n'avait pas l'intention d'ouvrir le débat sur la peine de mort au Canada. Toutefois, selon le critique libéral Dominique Leblanc, ce sondage démontre que le gouvernement a réussi à faire peur aux Canadiens en exagérant les problèmes de sécurité de la communauté.
Non, mais pour une fois, je suis d'accord avec un libéral.
Bon. Ouais. On est peut-être d'accord sur ce qu'il a dit, mais pas sur pourquoi
Je sais, mais je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Parce que dans le fond, effectivement, à force de donner de la démagogie, de donner dans la démagogie autour du crime, on s'en sort pas. Ça fait de la peur, ça fait de.
Gouverné par la peur. Ben, c'est comme ça que Stephen Harper reste là.
Oh, oui, effectivement. C'est exactement son mode.
C'est bébé Bush. Il travaille fort.
Ouais. Mais il n'est pas là tout seul à travailler fort. Peut-être que ça vient de quelque part, conservateur quelque part, mais dans l'affaire Freddy Villanueva, autour de l'affaire Freddy Villanueva, en fait, il y a son frère Danny qui risque l'expulsion.
Celui qui joue au dé.
Celui qui joue au dé et qui était ciblé par les policiers La Pointe et Pilote. Donc...
On a le droit de dire les noms, mais pas de montrer les faits.
Ouais, c'est ça. Puis malheureusement.
Fait que chercher sur Google La Pointe et Pilote.
C'est ça. J'aime la Pointe et Stéphanie Pilote.
C'est pas nous qui a donné les faits.
Il risque l'expulsion. En fait, c'est une histoire qui date de 2006. Ce qui arrive, c'est que l'agence des services frontaliers, ils viennent de déposer la preuve là, par rapport pour dire que Villanueva, qui est un résident permanent, pourrait être interdit de séjour au Canada pour grande criminalité. Ce qu'il lui reproche, c'est qu'en avril 2006, il aurait été en possession d'un revolver, puis il aurait bousculé un adolescent pour lui voler une chaîne.
Un revolver calibre 22.
Calibre 22,
je sais pas si vous connaissez les armes à feu, mais c'est un fusil à pétard.
Ça
peut tuer, effectivement, mais c'est probablement le truc le plus commun qu'on trouve. Il habite Montréal-Nord, et je connaissais du monde à Montréal-Nord, puis c'est pas mal le truc que tous les petits truands y ont. C'est loin de... À un moment donné, ça vient comme banal. C'est ça le truc. C'est que tous tes amis en ont, puis tu finis par pas te poser de questions, puis t'en as un. Je dis pas que j'en ai eu un, j'habitais pas à Montréal-Nord. Mais bon, c'est très répandu.
Ouais. C'est ça. On l'accuse de grande criminalité pour ces crimes-là. Mais en fait, là, ce qu'ils ont dit, c'est que peut être invoqué dans deux cas. Là. C'est quand un ressortissant étranger il aurait purgé une peine de prison d'au moins 6 mois. Je pense pas qu'il. Ben, en tout cas, je me semble pas que c'est des peines de 6 mois là, qu'il avait purgé dans ce cas-là.
Non, sinon, je pense que ça aurait été automatiquement engagé.
Ouais, c'est ça, c'est enclenché. C'est ça. Puis, sinon, ben, qu'il aurait été reconnu coupable d'un crime qui est passible d'au moins 10 ans de prison.
Ben, jouer au dé, c'est dangereux.
Ouais, c'est ça. Mais là, dans le fond, c'est ça, ce qui est un peu louche, c'est que là, ça tombe comme ça. Ben, c'est effectivement, ça fait 4 ans là, que c'est comme pendant la cause. Puis là, ben, bang, ça sort. Là, il est sur le bord de faire son témoignage. Puis
on cherche à l'intimider, cherche, clairement, oui, parce que les mesures d'expatriation, en tout cas, le foot dehors du pays, ça va être plus long que s'il passe en cours.
Mm-hmm.
Mais ça lui pend au-dessus de la tête. T'sais.
C'est ça.
Pense comment tu témoignes le jeune, parce que nous, on te check.
Ben, c'est ça. Puis ça, ben, ça, d'après son avocat, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas question qu'il soit mis dans un avion avant son témoignage. Là. Sûrement que le juge va le faire retenir pour le témoignage, mais effectivement, c'est quand même un facteur. Toi qui doit être légèrement perturbant, là, de, comme se dire, je risque de me faire crisser dehors, puis de m'en retourner dans un pays que, dans le fond, j'ai à peine connu, parce que plus que 10 ans qu'il est au Québec, puis il est comme 25 ans. Là,
ouais, il est arrivé jeune, puis ouais, en plus, tu sais, c'est plus chez vous. Ben, je veux dire, ça fait 10 ans que tu es là, tu vis là. Le gars, il a peut-être. Oui, il y a un dossier, mais si on est pour chercher dans les ancêtres de tout le monde qui a des dossiers pour les retourner d'où ils viennent.
C'est ça.
On n'est pas fini.
Ok. En tout cas, bref, ça lui pend sur la tête et ça continue l'affaire Villanueva encore on n'en finit plus d'avoir des rebondissements.
Ouais, le harcèlement en a de cesse.
Et oui. Bon, on retourne dessus pour une petite
chanson. Une petite pièce, notre plug de tournée. Et ouais. Alors, la petite
plug
pièce,
sur la ici aussi.
Oui, notre petite pièce, c'est Corrigan Fest qui nous chante Terre de Feu.
Donc, de retour à voix de fait, On vous a parlé la semaine dernière d'Haïti là, par rapport au tremblement de terre, par rapport à l'aide aussi qu'on pouvait y apporter. Et on vous a parlé d'une manière productive par rapport à aider les gens qui s'organisent au quotidien, qui s'organisent localement pour reconstruire dans le fond, qui s'organisaient avant le séisme pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie de manière autonome, puis qui essayaient de s'organiser sur leur propre base. C'est le groupe Bataille Ouvrier, c'est ça, qui est un groupe qui est basé à Port-au-Prince et dans une couple d'autres localités autour. Et dans le fond, qu'on pouvait aider à travers le groupe Miami, Solidarité et... Ah, je me rappelle plus du reste, là, mais en tout cas, vous pouvez le trouver sur notre blog, là, Voix de fait avec un X et un S. blogspot.com où donc vous allez pouvoir trouver le lien là, pour aller pouvoir faire un don à ce groupe-là, Bataille Ouvrier. Ce qui est d'autant plus important parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie dans le Devoir ce matin qui parle des sauveurs de la Bible Belt qui débarquent en Haïti.
Ouais,
c'est donc tous les groupes chrétiens étranges de sectes protestantes et etc. là, qui viennent faire leur évangélisation avant tout au lieu de venir aider là. Puis entre autres moi c'est ce qui m'a vraiment marqué là, c'est hier soir de voir dans les nouvelles culturelles Radio-Canada le Boeing de John Travolta avec l'église de Scientologie qui arrive en force à Haïti pour venir
pour ramasser les Haïtiens et les faire travailler dans des jobs de misère aux États-Unis.
C'est, ouais, en tout cas, c'est vraiment...
Scientologues, tenez-vous au courant, qui vont nous faire une belle démonstration publique en fin de semaine.
Oui, effectivement, aussi. Okay.
Ça serait bien d'aller leur montrer notre désaccord.
Oui, et on fait bloquer la rue Saint-Joseph vendredi soir et samedi soir. Vendredi matin et samedi soir, quelque chose comme ça. Ouais. Donc,
un bon bout, là.
Un bon bout, c'est ça. Donc, pour inaugurer leur nouvelle église.
Des millionnaires.
Oui. Fait que...
Ce qui me revient pas, là, c'est que toutes les religions, là, peut-être pas les scientologues, ben c'est une belle secte criminelle reconnue, mm-hmm. mais pas mal de religions nous cassent toujours les oreilles avec la capitation, surtout les catholiques. Là. On a besoin d'argent, on est pauvres et tout, mais aussitôt qu'il arrive un désastre puis qu'il vient le temps d'aller faire de la belle propagande pour essayer d'aller ramasser des nouvelles oies fraîches, là, ils ont le budget.
Ouais,
là, ils sont là. On est prêts. Mais de l'autre côté, ils veulent des exemptions d'impôts, ils veulent votre argent, puis c'est débile, c'est pas logique.
Ben, c'est un peu comme les grands capitalistes, là, je veux dire, ils font jamais assez d'argent, puis, mais bref, ils en ont tout le temps pareil assez.
On parlait des scientologies, tu parlais, faudrait monter à des accords, une manifestation de collectif Anonymous à Saint-Denis à Québec. Allez dans Google, tapez Anonymous Québec, vous allez tomber sur celui-ci pour avoir les impôts pour la manifestation, je sais pas si on fera mémoire, mais...
On va mettre le lien sur notre blog.
Ouais.
Ouais. Puis on va arrêter de parler des scientologues parce qu'on n'aura plus de temps pour parler de notre tournée.
Il reste 3 minutes.
Mais c'est ça, la tournée qui est organisée par l'UCL, l'Union communiste libertaire, dont fait partie le collectif Anarchiste la nuit qui fait cette émission Voix de fait. Organise une tournée Usine sans patron avec, dans le fond, un camarade anarchiste argentin qui vient nous parler des prises d'usine qui ont eu lieu en Argentine en 2001 dans le cadre d'une grande crise économique qui a eu lieu là-bas, puis comment les gens se sont organisés, se sont réappropriés les usines avec des comités, en fait, qui ont autogéré l'économie locale. Donc, ça risque d'être très intéressant comme expérience concrète de lutte. Ce camarade-là va faire beaucoup de villes dans sa tournée, mais à Québec, il va être là lundi.
Il va être là dimanche à Los Machos,
oui,
del Domingo.
Dimanche,
entre 4 et 5 l'après-midi.
C'est ça, sur les ondes de CKIA.
Lundi, une belle journée off.
C'est ça.
Pour venir nous faire 2 conférences mardi.
Mardi midi, mardi vers 11h, 11h30 à l'Université Laval. Donc, vous pouvez trouver le lien encore là sur notre blog. puis
mardi soir, mardi d'anarchie
à 20h, donc
à l'agité.
Donc yeah. vous avez deux occasions, voire trois occasions pour pouvoir l'entendre à Québec, donc profitez-en, donc ça va valoir la peine, j'en suis certain.
Puis si vous voulez avoir une base avant d'avoir la conférence ou quoi que ce soit, allez voir sur notre blog. On a une bonne petite blog de film qui fait une bonne entrée en matière là-dessus.
Un film de take.
Ouais.
Donc, on vous rappelle l'adresse de notre blog, voix de fait avec un X et un S en un mot, .blogspot.com. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission pour aujourd'hui. Donc, c'était Guillaume.
Gianni.
Et Farouk qui vous dit spécial dédicace Nicolas pour fermeture d'émission. On finit avec Esclave Salarié, le groupe préféré à Nicolas. À la semaine prochaine.
Ciao.
On s'accroche à tout ce qu'on a, le rock et nos espoirs, tout ça. Jusqu'ici une vie de chien, ici-bas tout ce qu'il y a de l'important. Le goût du sang me laisse un goût amer. Laisse ici, ça traînait derrière. Le goût du sang, le goût du sang, le goût du sang, le goût du sang. On s'accroche, on prend ce qu'on a. Nos rêves, plein d'espoir. C'est toi. Même si je rêve presque plus. Le jour, la nuit, vous savez quoi, je rêve plus. J'espère, yeah. Le sang et les poings la serrer. Tu penses le temps comme tu peux te penser. Le goût du sang me laisse un goût amer. Laisse ceci, ça traîne derrière.